accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Rarement un référendum national aura été autant suivi par les dirigeants européens. Ce dimanche en Turquie, une courte majorité a finalement accordé à Recep Tayyip Erdogan le régime présidentiel dont il rêvait depuis des années. Résultat contesté par l'opposition au terme d'une campagne tendue. Cette campagne a également suscité de vives tensions entre Ankara et certaines capitales européennes, inquiètes des intentions du président turc. Et cela ne devrait pas s'arranger après cette victoire de justesse.
Dans l'esprit de Recep Tayyip Erdogan, cette victoire dans les urnes, aussi courte et contestée soit-elle, est aussi une victoire et même une revanche sur l'Europe et ses dirigeants. Le président turc n'a cessé de les accuser d'ingérence dans la campagne, dans le camp de ses opposants. La preuve ultime, selon lui, les interdictions de meeting de plusieurs ministres turcs aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et ailleurs, qui ont valu à ces pays et à l'Union européenne d'être comparés aux nazis, aux fascistes et aux croisés du Moyen-Âge. Tout cela évidemment dans un but électoraliste, pour galvaniser chez les électeurs de Turquie et de la diaspora le sentiment nationaliste. Sûr de sa victoire, que va faire Tayyip Erdogan? Réputé pragmatique, en dépit de son tempérament colérique, il pourrait adoucir le ton vis-à-vis de l'Europe à laquelle il estime avoir donné une bonne leçon. Mais le peut-il vraiment et le veut-il encore? Beaucoup de promesses ont été faites et de menaces proférées durant cette campagne. Celle de rétablir la peine de mort qui voudrait arrêt immédiat des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE. Celle d'organiser un référendum sur la poursuite ou non de ces négociations, qui présenterait tout de même un risque pour le dirigeant turc. Celle d'annuler aussi l'accord migratoire signé en mars 2016, en raison du refus de Bruxelles de lever les visas Schengen pour les citoyens turcs. Impossible, comme toujours, de prédire le prochain coup de Recep Tayyip Erdogan. Une chose est sûre, pour lui comme pour les Européens, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de faire comme si cette campagne n'avait pas existé, avec son niveau inédit d'insultes et de provocations, des deux côtés d'ailleurs. Mais ce n'est pas, à l'évidence, le principal souci de Recep Tayyip Erdogan.
Un pas important pour les musulmans d'Italie. Le 1er février dernier, l'État et les principales associations musulmanes de la péninsule signaient le pacte pour un islam italien. Un document important car l'islam n'est pas reconnu officiellement comme le christianisme ou le judaïsme. Avec plus d'1,5 million de pratiquants, l'islam est pourtant la deuxième religion du pays. Ce nouveau pacte va permettre tout à la fois aux musulmans de pratiquer leur foi dans de meilleures conditions, en contrepartie de quoi les imams s'engagent à lutter contre la radicalisation. C'est un reportage d'Olivier Bonnel.
Nous sommes à la mosquée Al-Huda de Centocelle, un quartier populaire de l'est de Rome. De l'extérieur, rien n'indique la présence d'une salle de prière. Il faut descendre dans ce qui était autrefois un garage où ont été installés des tapis et un mihrab, cette niche orientée vers la Mecque. Comme chaque vendredi, près d'un millier de fidèles sont venus prier et écouter le prêche de l'imam du docteur Ben Mohamed. Mais à l'issue de la prière, personne ne souhaite s'exprimer. Les fidèles semblent embarrassés d'évoquer leur lieu de culte qui ne correspond pas aux standards qu'ils souhaitent. L'imam Ben Mohamed préside l'Association culturelle islamique d'Italie, l'une des 9 organisations musulmanes qui a signé le pacte pour un islam italien. S'il s'irrite parfois de vouloir faire de l'islam une spécificité, il reconnaît que l'accord va dans le bon sens, celui d'une reconnaissance véritable de l'islam sur le territoire et une amélioration des conditions de prière de ses fidèles.
Notre problème est surtout celui de la reconnaissance, qui nous ouvre bien sûr des portes et qui nous aide aussi à avoir des lieux de culte plus visibles et plus dignes. Car aujourd'hui, la situation de nos mosquées n'est pas celle que nous espérons. La plupart sont dans des garages ou des sous-sols, comme la nôtre ici.
Garantir des lieux de culte dignes est justement l'un des 10 points du pacte signé le 1er février. En Italie, seulement 4 mosquées sont officiellement reconnues, à Rome, Milan, Ravenne et Colle Valdelsa en Toscane. 164 autres mosquées sont par ailleurs réparties sur le territoire, qui recense également 222 salles de prière, la plupart dans des garages, des caves ou des anciens magasins. Le nouveau pacte veut rompre avec ces espaces souvent cachés. L'État s'est engagé à organiser une conférence avec les associations musulmanes pour planifier la construction de nouveaux lieux de prière plus salubres et plus sûrs. Parmi les points forts du document figure aussi l'obligation de prêcher en langue italienne ou d'en fournir une traduction. Si dans beaucoup de salles de prière du pays, on parle la langue de Dante, rien n'est encore unifié et l'arabe ou le farsi sont encore parfois les seules langues accessibles. Pour l'État italien, la question sécuritaire est une priorité, d'où cette insistance sur la langue, mais aussi sur le pédigré des prêcheurs. Par ce nouveau pacte, les autorités veulent mieux connaître les imams. Marco Minniti est le ministre italien de l'Intérieur.
Dès le moment où l'on identifie un imam, que l'on connaît son histoire, s'il a prêché dans un autre pays, il faut savoir d'où il vient.
En signant le document, les principales associations musulmanes italiennes se sont ainsi engagées à former des imams qui puissent devenir de véritables médiateurs entre la mosquée et la société, en plaidant notamment pour la coexistence, la paix civile ou l'égalité homme-femme. Les associations s'engagent aussi à être transparentes sur les financements des différents lieux de culte et associations culturelles islamiques, surtout quand les fonds viennent de l'étranger. Shahrzad Ouchmand est théologienne d'origine iranienne. Elle a fait partie d'un comité de 11 experts musulmans chargés de rédiger ce pacte. Pour elle, ce document marque une rupture.
Les associations ont vraiment décidé d'être ouvertes et transparentes pour faire tomber les préjudices et le doute. La non-intégration peut causer l'agressivité. Et les musulmans d'Italie, outre leur ouverture à la société italienne, veulent réellement s'y intégrer. Ils ne veulent pas créer de ghettos. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles italiennes que les autres. Ils ne se retrouvent pas dans un quartier en particulier. Ils sont vraiment mêlés au reste de la population italienne et veulent que ça continue.
Pour la théologienne, les mots ont été choisis avec justesse, car un islam italien va bien au-delà d'une simple organisation de la religion musulmane sur le territoire de la péninsule.
Secondo me anche la scelta di questa parola, io direi veramente molto interessante.
Le mariage de ces deux mots, islam italien, est très intéressant. Ce n'est plus l'islam qui vit en Italie, mais un islam qui veut être italien. C'est une lecture religieuse qui prend l'adjectif italien et cela est un message très fort.
Et un messaggio molto forte.
Selon Shahrzad Ouchmand, le pacte ne peut qu'améliorer la visibilité des musulmans en Italie. Comme de nombreux pays d'Europe, l'islam est plutôt impopulaire aux yeux des Italiens. Selon un récent sondage du Pew Center aux États-Unis, 69% d'entre eux ont une opinion négative sur les musulmans. Les associations musulmanes d'Italie espèrent que ce pacte provoquera un changement progressif des mentalités.
Une effervescence toute particulière en ce week-end de Pâques dans une petite ville de Bosnie-Herzégovine à Medjugorje. Des milliers de fidèles catholiques s'y rendent en pèlerinage et cela dure depuis 1981. Merci Anesic.
Le 25 juin de cette année-là, 6 adolescents racontent avoir vu apparaître la Gospa, c'est-à-dire la Vierge Marie. Elle continuerait à se manifester très souvent. Encore aujourd'hui. Depuis cette révélation, tout a changé dans le village. De pauvre, il est devenu prospère. La région s'est développée aussi. Les restaurateurs et les hôteliers affichent des profits records alors que les premiers pèlerins devaient dormir chez l'habitant. Ici, on vend des messes, des statuettes de Marie ou de Jésus, des livres, des DVD. À Medjugorje, les dernières déclarations de l'évêque de Mostar, qui ne reconnaît pas ses apparitions, ne perturbent personne, car les riverains le savent bien, si l'affaire les enrichit, elle continue de diviser l'Église. Monseigneur Ratko Peric, comme tous ses prédécesseurs, s'oppose à la reconnaissance de ce phénomène par le Vatican. Le récit des enfants faits à l'époque est contradictoire et flou, estime l'évêque. À Medjugorje, les riverains ne commentent pas, ils préfèrent se réjouir de l'arrivée récente d'un envoyé spécial du pape. Cet évêque polonais affirme que ce culte marial est le fruit d'une intervention divine. Pourtant, il est chargé de dresser un état des lieux au caractère exclusivement pastoral et pas d'enquêter sur la nature de ces apparitions supposées. Le dernier rapport à ce sujet remis à Rome date de 2014 et le Vatican n'est pas encore prêt de trancher.
La déforestation ne concerne pas que les forêts brésiliennes ou indonésiennes. Au cœur de l'Europe, dans les Carpates, la déforestation est un problème majeur. En Roumanie, par exemple, on estime que 80 millions de mètres cubes de bois, représentant des dizaines de milliers d'hectares, ont été coupés illégalement entre 1993 et 2013. Un système complexe qui met en évidence les problèmes de corruption dans le pays. Mais depuis quelques années, un Allemand passionné de nature a entamé un bras de fer avec les autorités et les braconniers. Il a créé une fondation Carpathia pour acheter des hectares de forêt. Le reportage de Benjamin Ribou.
C'est dans la vallée de la rivière Dumbovița, en plein cœur des Carpates roumaines et du pays, que Mihai Zota travaille actuellement à son vaste chantier de reforestation pour la Fondation Carpathia.
Ici, le fossé avait au moins 3 mètres de haut. Cela entraînait toute l'eau et la terre fertile du versant. Regardez ici. À certains endroits où la pente était importante, on a dû faire des clôtures en bois recouvertes maintenant par de la terre pour arrêter l'eau. Le terrain a quasiment sa forme initiale. Au total, et avec cette activité de colmatage de l'érosion, on a nivelé plus de 30 km de chemin affectés par les coupes illégales de bois.
Ce printemps, Carpathia va planter 400 000 hêtres, épicéas, sapins et érables. L'épicéa a été cultivé intensément sous le communisme pour l'industrie du meuble. Il a été l'une des principales victimes de ces coupes sauvages. La fondation veut recréer la forêt originelle en se basant sur des vieilles cartes. Mais replanter coûte cher, surtout quand le sol a été durablement abîmé par l'exploitation illégale.
Din păcate, din cauza că aceste tăieri au fost făcute...
Malheureusement, les coupes ont eu lieu dans des endroits relativement accessibles, avec de la pente, ce qui leur a permis de faire descendre directement le bois dans les rivières. Les dommages pour l'environnement sont importants. Une grande partie du sol a fini dans la rivière Dumbovița et ainsi le lac d'accumulation d'en dessous est presque colmaté par cette terre fertile qui a coulé du versant.
Se faire accepter par les locaux n'est pas une mince affaire pour la fondation. Elle possède des gardes forestiers, mais aussi des rangers qui parcourent les forêts chaque jour. Les vols de bois ont diminué, mais pour les populations démunies, notamment Rome, le bois est une source de revenus. Il faut donc proposer des alternatives. Christophe Promberger, à l'origine du projet.
Pour ce genre de parc, il nous faut un dialogue intensif avec les mairies et les communautés. Aujourd'hui, par exemple, nous avons rendez-vous avec plusieurs mairies pour discuter de la possibilité de créer un réseau de type Food Up. C'est un projet pour aider les petits fermiers qui n'ont pas accès au marché et faire en sorte qu'ils s'unissent et vendent ensuite sous une marque commune. On fait cela car c'est bien beau de protéger les forêts, mais il faut aussi créer une alternative économique pour les gens. Pour nous, le tourisme, l'agriculture et une autre forme de sylviculture dans les zones tampons en font partie.
La Fondation Carpathia a acheté plus de 18 000 hectares et espère que l'État valide un jour ce projet de grand parc. Carpathia lui fera alors don de ses forêts. Sur le terrain, certains reprochent à la Fondation sa vision trop radicale qui isole les communautés locales des forêts. Tous ne bénéficieront sans doute pas des opportunités du tourisme vert. Mais confrontés à des administrations locales et nationales corrompues, Carpathia a estimé que c'était là le seul moyen de ne pas voir disparaître les forêts roumaines.
Livre.
Books. Des livres.
Vladimir Poutine peut-il influencer les élections en Europe, notamment à la présidentielle française dont le premier tour est prévu dimanche prochain? La chercheuse Cécile Vessier est persuadée qu'il fera tout pour favoriser les candidats favorables à la Russie. C'est ce qu'elle démontre d'ailleurs dans son livre « Les réseaux du Kremlin en France ». Des réseaux influents qui ont agi lors de l'élection aux États-Unis et qui inquiètent une partie de l'Europe. Alors quelles sont les intentions des Russes en France? La réponse de Cécile Vessier au micro de Catherine Roland.
ils soutiennent deux candidats. Ils soutiennent d'une part Marine Le Pen et d'autre part François Fillon. Alors un petit peu moins François Fillon ces derniers temps, mais quand même. Et
oui, Marine Le Pen qui était reçue d'ailleurs dernièrement par Vladimir Poutine en grande pompe.
Tout à fait. C'était une surprise sans en être une. On a annoncé qu'elle partait à Moscou, qu'elle était reçue à la Douma, où je dirais elle a un petit peu ses habitudes. Et dans la journée, on nous dit, ça y est, elle est reçue par Monsieur Poutine. On a donc les images de cette rencontre qui aurait duré une heure et demie. Et là, c'est très étonnant aussi parce qu'une heure et demie, on peut s'en dire des choses, même avec une interprète.
En face, il y a Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui lui a été victime de plusieurs, enfin son mouvement a été victime de plusieurs cyberattaques. Oui. Et il a déjà accusé la Russie de vouloir agir sur l'élection présidentielle en France.
Oui, ben, disons, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'on voit effectivement sur ces médias russes, c'est-à-dire des médias du Kremlin, mais en français, on voit des attaques qui sont lancées contre M. Macron. Pour donner une idée, c'est sur Spoutnik, donc l'un de ces médias du Kremlin, que le député Duick a accusé M. Macron d'être homosexuel et d'avoir un mariage de couverture. Bon, le tout étant mêlé à des accusations sur le fait qu'il avait travaillé pour le grand capital américain, etc. Donc, ce type d'accusations très personnelles ont visé sur les médias russes, essentiellement M. Macron.
Alors, vous parliez de l'importance des médias russes, donc Russia Today, oui. Spoutnik notamment. Quels sont les moyens plus généralement utilisés par la Russie pour sa propagande?
Moi, je dirais que les médias sont très importants parce qu'ils sont repris par toute une série de sites, de pages, de groupes sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que, je crois, pendant longtemps, les autorités européennes ou françaises n'ont pas suffisamment apprécié en se disant, bon, ce sont des petites pages internet, Spoutnik et RT, ça n'a pas beaucoup d'importance, ils ne sont pas tellement suivis. En fait, c'est faux parce qu'ils sont énormément repris par toute une série de groupes à l'extrême droite, à l'extrême gauche, des espèces de groupes qui soutiennent, par exemple, la présence russe dans le Donbass, qui soutiennent différents mouvements indépendantistes. Et au bout du compte, tout ça, ça finit par faire du monde et ça finit par peser. On voit aussi le Kremlin ouvrir un certain nombre de think tanks. Où il organise des conférences, alors ça va toujours dans son sens. Je pense là au centre de Madame Narodchinskaya, qui est à Paris, qui a organisé toute une série de conférences sur les grands enjeux géopolitiques, mais uniquement du point de vue du Kremlin. On a le forum franco-russe qui, en théorie, pourrait être une très bonne chose pour dynamiser un petit peu les rapports économiques, mais aussi les rapports culturels entre la France et la Russie, mais en fait qui est devenue une organisation complètement idéologisée.
Il y a aussi tous ces réseaux qui s'étendent sur les hommes ou femmes politiques françaises.
Voilà. Alors je crois que ce qui a attiré l'attention de tout le monde, cela a été les soi-disant prêts accordés à Madame Le Pen pour l'une de ces petites structures. Là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, dans le sens où d'abord, il y a mensonge énorme. C'est-à-dire que si c'était des prêts, les prêts ne sont pas interdits par la législation française. Cela aurait pu être dit. Là, ça a été caché, ça n'a pas été dit. Or, on a des suspicions en Europe sur d'autres partis. Pour le Kremlin, dans leur mentalité, le Front National, ce sont des agents de l'étranger en France.
Est-ce que cela veut dire que finalement les méthodes d'influence actuelles, on peut établir un parallèle avec celles utilisées à l'époque soviétique et par le KGB?
Vladimir Poutine a été formé par le KGB soviétique des années 70 et du début des années 80. Et on retrouve, je dirais, non seulement certains procédés, mais on retrouve des éléments de discours. Des accusations lancées contre l'OTAN, contre les États-Unis, contre le fait que l'Europe serait soi-disant rendue esclave. Et on retrouve des moyens qui me semblent être réutilisés de nouveau, avec par contre des techniques modernes. Et les réseaux sociaux, c'est absolument fantastique quand on veut répandre à un certain type de propagande.
Les réseaux du Kremlin en France de Cécile Vessier est paru aux éditions Les Petits Matins. Ludivine Amado a réalisé mise en onde cette émission. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.